Vous avez choisi Europe 1, bravo. Il est 22h. Tout de suite le journal, Isabelle Millet.
Bonsoir à tous, voici les titres de votre journal. Qui organisera le grand débat national qui démarre la semaine prochaine? En tout cas, ce ne sera pas Chantal Jouanneau. Elle jette l'éponge après la polémique sur sa rémunération. Le cafouillage autour de la taxe d'habitation, faut-il la maintenir pour les 20% des Français les plus riches? C'était oui, puis non. Finalement, la question devrait être tranchée lors de ce grand débat national. À la une également ce soir, la bataille des cagnottes, alors que celle en soutien à l'homme qui a boxé des gendarmes samedi est désormais fermée. Une autre vient d'être ouverte, en soutien cette fois aux forces de l'ordre blessées lors des manifestations des Gilets jaunes. Au procès Barbarin, l'Église face aux souffrances des victimes du père Prénat. Donald Trump qui va s'adresser à la nation ce soir au sujet du fameux mur à la frontière avec le Mexique. Le décès de la propriétaire du Negresco à Nice, Jeanne Augier qui avait promis de léguer son hôtel à ses chiens. Et puis le foot, quart de finale de la Coupe de la Ligue, Lyon-Strasbourg. On vous retrouve en direct, Pascal Auclair. Et c'est Strasbourg pour l'instant qui domine.
Eh oui, exact, c'est la surprise, c'est la pause. Et pour l'instant, Strasbourg mène 1-0, un but inscrit à la 26e minute par Ajorqué.
Merci beaucoup Pascal Auclair, que l'on retrouvera dans le courant de ce journal pour faire un nouveau point. Du côté de la météo, Elena Morna nous annonce pour demain une journée bien hivernale sur l'Est avec de la neige à très basse altitude du Nord-Est à l'Auvergne et au Rhône-Alpes. Sur le Sud-Est, le Mistral se maintient à 100 km/h. Sur l'Ouest, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies. Prévision complète d'Elena à la fin de ce journal. Et puis votre rendez-vous éco tous les soirs à 22h20 avec Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir à l'occasion du Salon mondial des technologies de Las Vegas Mathieu Letombe, le directeur général de Withing. C'est une société française qui conçoit, développe en France et commercialise des objets connectés. Withing, qui est présente en ce moment à Las Vegas.
Europe 1.
Et c'est donc l'info de cette soirée. Chantal Jouanneau jette l'éponge. Elle décide de se retirer de l'organisation du grand débat national censé répondre à la crise des Gilets jaunes. Annonce faite alors que la révélation de son salaire de 176 000 euros annuel faisait polémique. Elle avait d'ailleurs elle-même invité à mettre ce sujet au programme du grand débat. Ce retrait, elle l'a annoncé tout à l'heure en direct sur France 2.
J'ai constaté, et je prends acte d'ailleurs, des questionnements sur les niveaux de rémunération, alors en particulier de la présidente de la Commission nationale du débat public. C'est un niveau de salaire derrière qui est indépendant du grand débat. Le débat est légitime. Il est parfaitement légitime et nos concitoyens sont parfaitement légitimes à le poser. Et donc, je constate qu'effectivement, ça ne crée vraiment pas les conditions de sérénité qui sont nécessaires pour ce débat. Et donc, j'ai décidé de me retirer du pilotage de ce débat parce que ce débat est nécessaire. Il doit être serein. Il faut créer toutes les conditions pour qu'il se déroule. Je maintiens ma présidence. Ceci dit, je remets dans les mains du président de la République et du gouvernement en général d'ailleurs, le niveau de rémunération de la présidente de la CNDP qui leur appartiendra d'arbitrer comme les autres niveaux de rémunération des présidents d'autorités indépendantes et des hauts fonctionnaires.
Chantal Jouanneau, ce soir sur France 2, alors on ne sait pas qui donc organisera ce grand débat national, qui va succéder à Chantal Jouanneau, mais il y a un sujet qui devrait figurer au cœur des discussions. Les 20% des Français les plus aisés paieront-ils encore la taxe d'habitation sur leur résidence principale à la fin du quinquennat, ou bien en seront-ils exemptés comme les 80% de ménages les moins aisés? Après une certaine cacophonie, on y voit un peu plus clair ce soir, Anne-Laure Jumé.
Eh bien, on revient finalement à ce qu'avait dit Bruno Le Maire sur Europe 1 dimanche. La suppression de la taxe d'habitation pour les 20% des ménages qui ne sont pas aujourd'hui concernés. Cette suppression est bien sur la table. Ce sera un sujet lors du grand débat qui démarre la semaine prochaine. Voilà ce qu'on dit dans l'entourage d'Emmanuel Macron. Et si les Français nous disent qu'ils ne veulent pas que cette suppression soit effective, eh bien, nous sommes prêts à étudier le sujet. Même son de cloche un peu plus tôt à Matignon. Et ça sonne comme une mise au point après les atermoiements de Bercy. Car Bruno Le Maire avait donné le sentiment de rétropédaler ce matin sur cette question. Lors d'un colloque sur l'économie verte, le ministre de l'économie apportait cette clarification. Nous souhaitons aller au bout de la suppression de la taxe d'habitation, même si ça n'interdit pas que ce sujet soit débattu. Bref, retour ce soir à la case départ, avec en prime une belle cacophonie. Et ça montre en tout cas les tiraillements de l'exécutif entre deux lignes. Celle qui veut répondre aux gilets jaunes et celle qui veut montrer qu'elle garde le cap et ne change pas de politique.
Les précisions d'Anne-Laure Jumé du service économie d'Europe 1. Merci d'écouter Europe 1. Il est 22h04 et c'est le mot du jour. Cagnotte. D'abord celle lancée en soutien à l'ancien boxeur Christophe Détinger qui a frappé des gendarmes samedi à Paris. Elle a été fermée aujourd'hui, cette cagnotte, par Litchi après avoir recueilli plus de 120 000 euros. Le directeur général de Litchi affirme ce soir sur Europe 1 que l'argent collecté ne pourra servir qu'à payer les frais de justice et sera versé directement à l'avocat de Christophe Détinger sans intermédiaire. On précise précise qu'il est toujours en garde à vue. En tout cas, cette cagnotte a suscité l'indignation dans la classe politique et chez les syndicats de policiers, mais elle a quand même recueilli l'adhésion de quelques 8000 donateurs. Parmi eux, ce gilet jaune de Gironde qui assume totalement sa contribution.
Quand on touche à un, on touche à tous les autres. Donc il fera ce qu'il voudra de cet argent. S'il touche bien plus que ce qu'il a besoin pour se défendre au niveau de la justice, eh ben tant mieux. Ce monsieur-là, pour moi, c'est le héros des gilets jaunes. Voilà. Il y en a marre de se faire matraquer tous les samedis, quoi. Donc moi, donner 10 euros à un gars qui a un peu de courage et qui représente un peu le ras-le-bol, bah, moi, ça me gêne pas du tout. Hein. Pour nous, c'est un acte de défense, c'est pas un acte d'attaque. C'est ça que je pense que les politiques et les médias n'arrivent pas à comprendre. Ce gars, il a défendu les gilets jaunes, il n'a pas attaqué la police.
Philippe Gilet Jaune, un des donateurs de la cagnotte pour Christophe Détinger, joint pour Europe 1 par Justin Morin. Il parle, on vient de l'entendre, de gestes de défense. C'est un tabassage et rien d'autre, réplique Stanislas Godon. Il est le porte-parole du syndicat de police Alliance et demande plus qu'une simple fermeture de cette cagnotte. Il veut sa suppression.
Scandalisé, révolté, oui, le dégoût, parce que instaurer une cagnotte pour soutenir quelqu'un qui a tabassé des gendarmes, c'est carrément finalement le permis de tabasser du policier ou du gendarme. On est en décalage vraiment complet avec notamment les forces de sécurité qui sont là pour assurer la sécurité des personnes qui viennent manifester, y compris lorsque les manifestations ne sont pas déclarées. Nous demandons évidemment la suppression de cette cagnotte. Il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, les forces de sécurité, quand elles sont blessées, elles ne sont même pas éligibles à la commission d'indemnisation des victimes d'infractions. Donc là, quand on crée une cagnotte pour quelqu'un qui s'en prend aux forces de sécurité, on est complètement à l'inverse de l'ordre républicain.
Stanislas Godon du syndicat de police Alliance au micro Europe 1 de Romane Hoquet. Les forces de l'ordre qui reçoivent elles aussi le soutien des Français. Le président Les Républicains de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, a décidé de lancer une contre-cagnotte en quelque sorte. Celle-ci en faveur des policiers blessés lors des manifestations des Gilets jaunes. Et cette cagnotte a déjà récolté plus de 116 000 euros. Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, avait dénoncé hier une capitulation morale et intellectuelle et l'esprit munichois d'une grande partie de l'opposition dans cette crise des Gilets jaunes, ciblant en particulier Jean-Luc Mélenchon. Eh bien, le chef de file de la France Insoumise appelle aujourd'hui à la présence de casques blancs pour faire baisser les tensions lors des manifestations et, dit-il, pour éviter de faire croire que la violence serait du côté du peuple. Une prise de choix pour le Rassemblement national et une défection supplémentaire pour les Républicains. L'ancien ministre Thierry Mariani rejoint aujourd'hui la liste du parti de Marine Le Pen pour les élections européennes, ainsi que l'ex-député Les Républicains Jean-Paul Garot. Restez avec nous dans un instant, la suite de votre journal sur Europe 1 et l'audition des victimes du père Prénat au procès du cardinal Barbarin.
Europe 1.
Bonjour, je suis passé devant votre concession et j'ai une petite question concernant la nouvelle Skoda Fabia. Vous me confirmez qu'elle a l'ouverture, fermeture et démarrage sans clé ?
Oui.
Caméra de recul ?
Oui.
Feu de jour à LED ?
Oui.
Radar de stationnement arrière ?
Aussi.
Freinage automatique d'urgence ?
En ce moment, la Skoda Fabia Edition est à partir de 59 euros par mois sans apport, sous réserve d'éligibilité à la prime à la conversion de 4000 euros. Conditions sur www.service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 31 mars. Location longue durée, 37 mois, 30 000 km. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Détails sur skoda.fr.
Le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Merci d'écouter Europe 1, il est 22h08, c'est la suite de votre journal et parole aux victimes. Aujourd'hui, au deuxième jour du procès à Lyon, du cardinal Barbarin et de 5 autres membres de son diocèse jugés pour non-dénonciation d'actes pédophiles, le procès du silence de l'Église. Cet après-midi, ce sont les victimes qui ont pris la parole donc, avec notamment Jean-Luc Boujon, un long dialogue entre l'une d'elles et le cardinal Barbarin.
Oui, dialogue direct entre Alexandre Aisé et Monseigneur Barbarin. Alexandre Aisé, c'est celui qui, en 2015, informe directement le cardinal des attouchements qu'il a subis à l'âge de 8 ans de la part du père Prénat. Alors il raconte cette rencontre, comment lui, le catholique fervent, est très impressionné, même à 40 ans, d'être reçu par le grand chef de l'église lyonnaise, un cardinal qu'il décrit comme très avenant, très chaleureux, très compatissant, et surtout qui lui assure qu'il découvre absolument tout des agissements du père Prénat. Or, on sait aujourd'hui que c'est faux, que le cardinal en entend parler via des rumeurs dès 2002, puis par un témoignage extérieur en 2010. Et c'est à ce moment-là que le dialogue s'instaure. Alexandre Aisé assure que le cardinal, tout sympathique qu'il ait été ce jour-là, ne l'a jamais encouragé à porter plainte devant la justice. Monseigneur Barbarin se lève alors. « Ce n'est pas vrai, je me souviens parfaitement l'avoir fait. » Le prélat explique les choses avec de grands gestes, comme s'il faisait un sermon. « Je vous ai dit, il faut que vous trouviez d'autres victimes pour qui les faits ne sont pas prescrits, et je vous accompagnerai en cela. » « Désolé, monsieur le cardinal, mais nous ne sommes pas d'accord », répond Alexandre Aizé. « Vous ne m'avez pas dit cela, j'ai fait le travail seul d'abord, puis avec l'aide de la parole libérée. » Pendant ce temps, le père Prénat, lui, est toujours en poste près de Rouen. Il y restera encore près d'un an, au contact d'enfants, célébrant même une cérémonie de première communion.
Jean-Luc Bougeon, le correspondant d'Europe 1, qui suit ce procès du cardinal Barbarin à Lyon. Le combat continue pour les victimes de l'amiante qui ont opté pour un nouvel angle d'attaque et lancent une nouvelle action pour obtenir un procès pénal. Elles vont déposer, d'ici fin février, une procédure de citation directe collective. Pour Michel Parigot du comité anti-amiante de Jussieu, il y a urgence à juger les responsables nationaux de ce scandale sanitaire qui fait 3000 victimes par an.
Il s'agit de forcer effectivement la justice à faire un procès qu'elle ne veut pas faire et pour lequel elle met tous les obstacles depuis des années. Et en fait, ce qu'ils font, si on voit bien la stratégie, c'est d'attendre que tous les responsables soient décédés. Mais il y en a déjà beaucoup qui sont décédés. Donc il y a une question d'urgence, d'où cette citation directe. Pour les victimes, c'est crucial parce qu'elles veulent savoir pourquoi elles se sont trouvées dans cette situation-là. Pourquoi, alors qu'on connaissait tous les risques, on les a exposés, on les a rendus malades, on les a fait décéder. Et ça, c'est une demande qui est pour le moins une demande légitime.
Michel Parigot, le président du comité anti-amiante de Jussieu au micro européen de Chloé Triomphe. Donald Trump va s'adresser à la nation ce soir au sujet du fameux mur à la frontière avec le Mexique. Un discours avant un déplacement à la frontière jeudi. Le président américain, vous le savez, engagé dans un bras de fer avec les démocrates qui a provoqué le fameux shutdown, la fermeture partielle des administrations fédérales. Xavier Yvon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. C'est un discours qui sera forcément suivi avec beaucoup d'attention.
Oui, une adresse solennelle à la nation, et pour lui ce sera une première, et il pourrait s'en servir pour faire une annonce radicale, déclarer un état d'urgence national. C'est une procédure qui lui permettrait de réquisitionner de l'argent pour construire son mur. Les démocrates disent déjà que ce serait illégal, et ils promettent d'aller immédiatement en justice. En fait, Donald Trump doit tenter quelque chose. Il est isolé, une majorité d'Américains ne veut pas du mur, et rejette sur lui et les Républicains la responsabilité du shutdown. Pour les convaincre, Donald Trump va dire deux choses. Un, qu'il y a une crise majeure à la frontière avec le Mexique, et deux, que le seul moyen de régler cette crise, c'est un mur. Sauf que le problème pour lui, c'est que les chiffres disent tout autre chose. Il n'y a pas en ce moment d'urgence ou de crise à la frontière. Et quand bien même il y en aurait une, les experts disent qu'un mur serait inefficace. C'est pour rappeler tout ça que les chefs des démocrates prendront la parole eux aussi de manière solennelle ce soir après l'allocution de Donald Trump.
Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Il est 22h12. Son célèbre dôme rose domine la baie des Anges. L'hôtel Negresco, une institution à Nice avec à l'intérieur une collection d'art inégalé. Sa propriétaire, Jeanne Augier, vient de mourir à 95 ans. Frédéric Michel, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Nice. Sérieusement, Frédéric, est-ce que le palace va vraiment revenir à ses chiens comme elle le souhaitait ?
Quelle femme extraordinaire, Madame Augier, c'était quelqu'un. Je me souviens que lorsque j'y allais avec mon chien...
Vous l'avez compris, petite erreur. Ça n'est donc pas Frédéric Michel, mais une proche de Jeanne Augier qui vient donc de mourir à 95 ans. Toutes nos excuses pour cette petite inversion de Bobino, comme on dit dans notre profession. Il y a du foot ce soir et on va bien retrouver Pascal Auclair en direct. Quart de finale de la Coupe de la Ligue, Lyon-Strasbourg, avec domination toujours strasbourgeoise, Pascal.
Ah, pas une domination strasbourgeoise, mais au score, effectivement. C'est Strasbourg qui mène 1-0 alors que l'on vient de débuter la seconde période. Les Lyonnais, en fait, ont dominé largement toute la première mi-temps. Ils viennent d'égaliser, à l'instant même, l'égalisation de Traoré en direct. Je vous disais qu'effectivement, les Lyonnais avaient dominé les débats. Mais c'est Strasbourg qui avait ouvert le score à la 26e minute sur un pénalty transformé par Ajorc. Les Lyonnais continuent de pousser, ils ont tiré deux fois sur les poteaux, ils ont raté même un pénalty par Fekir. Et à l'instant même, donc, c'est Traoré qui permet à l'Olympique Lyonnais d'égaliser. Voilà donc Strasbourg et l'Olympique Lyonnais 2-2, un but partout, alors qu'il reste encore bien 35 minutes de jeu au Groupama Stadium.
Égalisation donc en direct sur Europe 1. Merci beaucoup Pascal Auclair. On vous retrouvera d'ici 22h30 pour faire un nouveau point. Il y avait deux matchs en retard également de Ligue 1. Ce soir, Nantes a battu Montpellier 2-0. Score vierge entre Amiens et Angers. Il s'appelle Jean-Claire Todibo. Il a à peine 19 ans. Ce jeune défenseur formé à Toulouse va poursuivre sa carrière au prestigieux FC Barcelone. Le club catalan voit en effet en lui, paraît-il, un futur Varane. Et puis dans le Rallye Dakar, la victoire du Français Sébastien Loeb sur sa Peugeot privée lors de la deuxième étape aujourd'hui. Le Sud-Africain Giniel De Villiers est en tête du classement général. Et on jette un œil tout de suite sur la météo avec vous, Elena Morna. Attention, et météo perturbée demain sur l'est du pays.
Oui Isabelle, et pour deux raisons. D'abord, la neige à basse altitude du nord-est jusqu'en Rhône-Alpes, ensuite le vent dans le sud-est. Alors tout le flanc est est en vigilance jaune à cause des phénomènes glissants pour le nord et le vent donc pour le sud. On commence par cette neige dès 200 mètres d'altitude où pluie et neige mêlée en pleine sur le flanc est. Il est tombé jusqu'à 20 cm aujourd'hui dans les Vosges et le Jura. On en attend 10 de plus demain sur les reliefs de l'est ainsi que sur le massif central. Localement, on pourrait avoir un saupoudrage en pleine dans le Lyonnais ou de la pluie et neige mêlée. Attention donc aux chaussées glissantes. Plus au sud, c'est le Mistral qui se maintient à 100 km/h. Vent qui accentue la sensation de froid, mais qui a le mérite de dégager le ciel. Sur la moitié ouest, c'est de plus en plus clair en allant vers l'Atlantique. Nuageux, c'est vrai, dans le sud-ouest et quelques flocons sur l'est des Pyrénées. L'autre info météo, c'est le refroidissement. Moins 4 à Briançon demain matin, moins 1 à Saint-Étienne et Rodez, 0 à Clermont-Ferrand et Belfort, 2 pour Bourges, Agen et Montpellier, 3 à Vannes et Lyon, 4 à Lille, Bordeaux et Marseille, 5 à Caen, Paris et 7 la maximale pour Dunkerque. L'après-midi, on aura moins 1 à Namur, c'est en Isère, jusqu'à 14 pour Nice et Ajaccio, 6 à Évreux, à Paris, à Blois et Angoulême.
La météo signée Elena Morna sur Europe 1.
Europe 1.
Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Didier Hameau de boursier.com, juste avant l'invité écho d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir, à l'occasion du Salon mondial des technologies de Las Vegas, Mathieu Letombe, le directeur général de WeThings. A tout de suite sur Europe 1.
22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Et avant de parler de la bourse avec Didier Hameau, on va tout de suite repartir à Lyon. Pascal Auclair, quart de finale de la Coupe de la Ligue, Lyon, Strasbourg, ça bouge.
Ah oui, les choses sont en train de s'emballer ici au Groupama Stadium. Lyon venait d'égaliser en direct par Traoré, badaboum. Et bien Strasbourg reprend l'avantage contre le cours du jeu. C'est Koné d'une tête rageuse qui vient de placer le ballon au fond des filets. Strasbourg 2, Lyon 1.
Merci beaucoup Pascal Auclair. Et comme promis, on s'intéresse tout de suite à la bourse avec vous Didier Hameau, rédacteur en chef de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Isabelle.
La hausse se poursuit à Wall Street sur des espoirs d'accord commercial entre les États-Unis et la Chine.
Ça monte, oui. Plus d'1% de gagné ce soir. Le Dow Jones plus 1,09%, 23 787 points. Le Nasdaq plus 1,08%, 6 897 points. Les négociations qui se déroulent à Pékin actuellement entre les deux pays, entre la Chine et les États-Unis, pourrait se prolonger d'une journée, ce qui a été interprété favorablement par les investisseurs pour tenter de sortir du blocage actuel. Ça donne un marché qui remonte donc nettement, un pétrole aussi qui se reprend de 2%. On remonte vers les $50 le baril WTI, c'est à $49.70 ce soir. Donc le baril, on est tout proche de cette barre des 50 et ça donne Exxon en hausse de 0,7%, le géant pétrolier à $72. Et puis, parmi les valeurs recherchées, les valeurs de technologie, encore une fois, Amazon reprend 1,6%, ce qui en fait le groupe le plus cher du marché, avec une valorisation de plus de $800 milliards. Hausse aussi d'Apple, plus 1,9%, Microsoft, plus 0,7%. Cisco plus 0,8, Oracle plus 0,9. C'est pas très spectaculaire, mais ça fait quand même de la hausse un petit peu partout. Seul l'euro est assez calme ce soir. Il revient sur les 1,1440 face au dollar.
Et la bourse de Paris a également nettement progressé.
Oui, plus 1,15%. Une nette hausse cette fois, 4773 points dans un marché qui reprend donc un petit peu confiance avec Wall Street sur le dossier commercial. Et parmi les valeurs en vue, surtout les valeurs exportatrices, donc assez logiquement. Capgemini rebondit de 3,8%, Airbus plus 3,7%. Le groupe aéronautique a confirmé avoir atteint son objectif de 800 livraisons d'appareils commerciaux en 2018. On a le luxe aussi, Kering qui reprend 3,5% avec LVMH plus 3,1% et l'automobile Valeo plus 3,4%. Renault rebondit de 2,7% et Peugeot d'1,3%.
Mais il faut toujours une exception, en l'occurrence l'exception du jour Didier, c'est Bouygues qui n'a pas suivi ce mouvement de hausse.
Non, moins 2%, pratiquement moins 1,9%. Bouygues revient sur la barre des 30 euros, la faute au Crédit Suisse qui a dégradé la valeur à neutre, en ne visant plus qu'un cours de 34 euros. Donc Bouygues qui pâtit de cette note d'analyste plutôt prudente. Pour le Crédit Suisse, le secteur de la construction a mangé son pain blanc et les télécoms évoluent dans un environnement toujours très concurrentiel. Ça donne Bouygues en baisse d'1,9% ce soir. Sur les autres places financières, ça monte partout. Francfort plus 0,5%, Bruxelles plus 1,2%, Madrid plus 0,8%, Milan plus 0,2% et donc le CAC 40 en hausse d'1,15%, 4773 points.
Merci beaucoup Didier Hameau de boursier.com. Et à 22h20 sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver l'interview écho d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir le directeur général de WeThings.
C'est une semaine spéciale autour du CES de Las Vegas. Chaque soir de la semaine, on est en direct de ce plus gros salon de l'électronique au monde. Et ce soir, on est avec Mathieu Letombe. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes à la tête de WeThings. Alors WeThings, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, c'est un spécialiste français des objets connectés de santé. Après avoir passé 2 ans dans le giron de Nokia, parce que vous aviez été racheté par le géant finlandais, avant d'être re-racheté par votre fondateur, vous êtes de retour, cette fois, sous votre seule marque au CES de Las Vegas. Première question peut-être un petit peu idiote, mais on est ému quand on revient tout seul comme un grand au CES de Las Vegas?
Oui, on est très émus et on est très heureux aussi de pouvoir présenter nos nouveautés et ce sur quoi on a travaillé depuis plusieurs années.
Et vous arrivez donc avec de nouveaux produits. L'année dernière, je suis allé regarder, il n'y avait qu'un produit WeThings qui avait été présenté au CES. Cette année, vous en avez 3. On va peut-être commencer avec les montres connectées qui avaient été un petit peu votre spécialité au démarrage. Qu'est-ce qu'elles ont de nouveau, ces montres connectées?
Cette année, on en sort 2. La première, c'est la WeThings Move. Et notre objectif a été d'adresser les 3 problématiques des trackers d'activité qui permettent de suivre l'activité et le sommeil. Mmh. Le premier, c'était la durée de la batterie. Avec la WeThings Move, on est sur une batterie qui peut se changer et donc on peut tenir jusqu'à 18 mois. Et donc l'utilisateur oubliera complètement qu'il a un produit qui doit être rechargé et pourra donc plutôt se concentrer sur le suivi de son activité. Le deuxième point, c'est aussi le design du tracker d'activité qui n'est pas souvent très joli. Et avec cette montre, on va introduire un nouveau processus qui est un processus de customisation de la montre. Donc toutes les parties de la montre pourront être personnalisées. Et afin de pouvoir livrer cette montre à nos clients en quelques jours seulement, nous assemblerons et fabriquerons ces montres en France avec le label Made in France.
C'est important ça dans la tech d'avoir le label Made in France?
Oui, c'est important et puis c'est important aussi pour nous d'avoir ce nouveau défi de pouvoir assembler et fabriquer ces montres en France. Le troisième point, c'est le prix. Comme on veut toucher un public très large avec ce produit, on a réussi à optimiser le design de la montre pour arriver à un prix de 69 euros.
Alors ça, l'espoir, c'est donc que ça permette enfin à ce marché des montres connectées de réellement décoller, hein, puisque pour le moment, ça reste quand même extrêmement confidentiel. L'autre grosse nouveauté au-delà des montres, c'est de ce que l'on m'a dit, hein, c'est ce que François Geffrier et Grégoire Martinez, qui suivent pour nous le CES de Las Vegas, m'ont confié. Il y a un tensiomètre assez révolutionnaire qui va nous permettre de mesurer nous-mêmes les données à transmettre ensuite à notre cardiologue.
Déjà, un tensiomètre, c'est nécessaire pour n'importe quelle personne qui a de la tension pour le suivre à la maison. Et c'est encore recommandé par des associations de cardiologues de suivre sa tension à la maison. Donc ça, c'est un premier point. Mmh. Le deuxième point, c'est que nous, on a souhaité ajouter des capteurs qui vont permettre de détecter 2 maladies cardiovasculaires qui sont les plus fréquentes chez les personnes qui sont hypertendues, la fibrillation auriculaire et les valvulopathies.
Donc ça veut dire, on va dire simplement, ça permet de prévenir un accident vasculaire cérébral, un AVC? C'est plus clair.
Exactement.
Comme ça, ça marche comme ça?
Exactement, ça marche comme ça. Et donc on a ajouté 2 capteurs, un électrocardiogramme qui va analyser les signaux électriques de votre cœur et un stéthoscope électronique qui va littéralement écouter les sons de votre cœur et de ses valves pour essayer de déterminer s'il y a un problème.
Alors j'ai eu du mal à comprendre comment véritablement ça fonctionne, à quel moment je vais avoir une indication qui va me dire « Oula, attention, il faut peut-être soit consulter, il faut peut-être faire plus attention, il faut peut-être mieux s'entretenir ». Est-ce que ça en est à ce niveau de précision?
En fait, la personne hypertendue, elle va prendre sa tension de manière régulière et au moment de cette prise de tension, nous on va faire cette détection de ces 2 maladies. Et donc à ce moment-là, si on détecte quoi que ce soit, on le dira à l'utilisateur et il sera en mesure ensuite de partager les informations que le tensiomètre a récupérées avec son médecin pour un diagnostic plus profond.
Au-delà de tous ces produits, on voit que là on est déjà dans des innovations fortes, hein, dans cette santé connectée. J'ai lu une interview de vous où vous dites que vous avez la volonté d'aller plus loin que la simple mesure de soi. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire d'aller encore plus loin qu'avec cette idée du tensiomètre, d'être vraiment dans des choses qui permettent de prévenir nos maladies?
Oui, exactement. Enfin, on fait déjà de la prévention. La prévention, ça peut être assez simple. Par exemple, on a plusieurs programmes aux États-Unis de prévention du diabète. On travaille avec des mutuelles qui sont obligées aujourd'hui par le ministère de la Santé américain d'avoir des programmes de suivi du prédiabète. Et pour prévenir le prédiabète, il faut contrôler, maintenir son poids et avoir une activité. Ces 2 points, ce sont les plus importants facteurs pour éviter d'avoir un diabète. Et donc aujourd'hui, nos produits sont déjà utilisés pour des programmes programme de prévention aux États-Unis, bientôt en France. Et donc, il y a déjà cette partie de la prévention qu'on fait et dans laquelle on veut aller plus loin.
Ça, vous parlez d'un dispositif qui existe aux États-Unis. Vous pensez que ça va arriver quand en France ? Que pour le moment, les assureurs n'ont pas le droit d'utiliser toutes les données de la santé connectée, par exemple, pour nous faire payer moins cher. On a eu quelques petites opérations avec des espèces de bons cadeaux. Vous pensez que au-delà de la réussite technologique, ça va aussi permettre d'aller là-dessus ? Si je suis en bonne santé, je vais payer moins cher. Si je m'entretiens bien et que ma montre le dit, je vais payer moins cher ?
Je ne sais pas si on paiera moins cher, mais on pense vraiment que pour le suivi de certaines maladies ou de certaines complications suivant une opération, nos produits seront utilisés pour prévenir des prochaines complications. De là à dire qu'on paiera moins cher si on est en bonne santé, c'est un peu tôt pour le dire, pour moi en tout cas.
Alors un peu tôt encore pour le dire. Est-ce qu'on a notre place à jouer encore en France sur ce gigantesque marché ?
Je pense qu'on a totalement notre place à jouer. WeSing, c'est un des partenaires commerciaux les plus importants d'Apple dans ses Apple Store. On est le seul partenaire commercial d'Apple à vendre des produits dans le domaine de la santé. Et donc, on a parfaitement notre place à jouer. Et donc, faut continuer. Et aujourd'hui, nous, le programme de prévention du diabète dont je vous ai parlé, on était en concurrence avec des fabricants américains et on a gagné ces marchés-là. Donc, oui, on a notre place à jouer.
Mathieu Lacombe, je rappelle que vous êtes le directeur général de WeSing, WeSing spécialiste français des objets connectés de santé. Vous nous faites la gentillesse d'être avec nous en direct depuis le Consumer Electronics Show de Las Vegas. Il paraît qu'il n'y a que des Français à Las Vegas. C'est vrai ? Vous entendez parler français partout ?
On entend parler français partout. Je crois que c'est le pays le plus représenté au CES. J'ai fait un tour dans le hall qui est dédié aux startups. La moitié du hall a le logo French Tech. C'est assez impressionnant. On voit d'autres pays similaires aux nôtres européens avec des tout petits stands. La France est vraiment très très bien représentée ici et effectivement on entend parler français dans tous les couloirs.
Mais comment vous expliquez que justement du côté des startups et donc plutôt des petites entreprises, on voit beaucoup de français, beaucoup de logos de la French Tech, on n'en voit aucun du côté des grandes entreprises? Qu'est-ce qu'on rate pour pas réussir à passer de l'autre côté du Consumer Electronics Show?
Les Américains sont très bons à justement passer cette étape après la start-up. C'est beaucoup plus facile de lever des fonds aux États-Unis, de lever des fonds très importants. Nous, on le voit puisqu'on est chez Nokia, on avait des gens à San Francisco et donc on était capable de voir ce qui se passait un peu plus là-bas. Et effectivement, en France, on a un peu du mal à passer cette prochaine étape. Mais il ne faut pas perdre espoir et on va y arriver, c'est sûr.
Merci beaucoup Mathieu Lethombe d'avoir été notre invité ce soir sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le directeur général de WeSing. On vous souhaite donc un très très bon CES et on souhaite aussi beaucoup de courage à François Geffrier et Grégoire Martinez qui là se préparent, ils sont quasiment prêts puisque nuit spéciale en direct du CES. C'est sur Europe 1, bien évidemment. C'est de 1h à 5h du matin. On va vous faire découvrir toutes les coulisses de ce salon. Soyez au rendez-vous. Et demain, 22h20.
On sera là ce soir et on sera là également demain. Merci beaucoup, Emmanuel Duteil. Dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quelles sont les infos que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant ? Et voici ce que vous découvrirez demain matin dans vos quotidiens. Une cagnotte aberrante, c'est le titre de l'édito de Guillaume Goubert dans La Croix. Le journaliste revient sur la fameuse collecte de dons pour l'ancien boxeur, agresseur de deux gendarmes samedi dernier à Paris, et il s'interroge. Jusqu'où serait monté le compteur si le site internet de collecte de dons Litchi n'avait pas décidé de fermer cette cagnotte ? Les fonds réunis approchaient alors les 120 000 euros après 36 heures seulement de souscription. Qu'elle ait rencontré un tel succès témoigne, d'après le journaliste, de la confusion dans laquelle notre pays est actuellement plongé. Généralement, c'est au profit des victimes que l'on collecte de l'argent. Là, dans un étrange et une étrange et triste inversion de valeurs, c'est un agresseur que l'on vient soutenir. Il est temps que chacun reprenne ses esprits. Les causes portées par les Gilets jaunes ont tout à perdre dans de pareilles aberrations, conclut Guillaume Goubert dans La Croix. Dans le journal L'Opinion, Nicolas Bétou nous parle de ces couacs révélateurs. On a suffisamment brocardé, écrit-il, les couacs à répétition de François Hollande pour ne pas être frappé par leur multiplication au sein de l'actuelle majorité. On connaissait ceux des débuts du quinquennat, ils étaient dus à l'inexpérience de la plupart des nouveaux parlementaires. On en a dénombré à l'occasion de l'irruption dans l'actualité de sujets clivants sur lesquels La République En Marche n'avait pas de doctrine établie. On pense à la question des migrants ou aux lois sur la lutte contre le terrorisme. Mais ce qui se produit depuis l'été et s'accélère en ce moment et d'une toute autre ampleur. ISF, taxes d'habitation, carburant, salaire minimum, référendum, sans oublier le prélèvement à la source et la limitation à 80 km/h, ça part dans tous les sens. Les ministres parlent, se reprennent, se contredisent entre eux. Les parlementaires y vont de leurs commentaires et suggestions, créant à la fois un halo d'incertitude et un sentiment de précipitation. Face à la pression des gilets jaunes, face à leurs doléances tous azimuts, il faudrait pourtant être clair. Pendant 3 mois, le débat national sera celui de tous les possibles et donc de tous les risques de dérapage. Il est urgent pour la crédibilité du pouvoir qu'Emmanuel Macron et Édouard Philippe remettent de l'ordre dans l'action publique. Voici donc ce qu'écrit Nicolas Béthou dans l'Opinion. Et puis la psychiatrie est à cran, c'est ce que titre le journal Libération. Sous-effectif, mauvais traitement, isolement des malades. Si la situation est très variable d'un lieu de soins à l'autre, la psychiatrie publique va mal et Libération vous propose un tour de France des hôpitaux psy. Voilà pour ce tour d'horizon des unes de la presse que vous retrouverez dans vos kiosques demain matin. Et nous, on va faire un nouveau détour par Lyon pour la Coupe de la Ligue de foot. Lyon, Strasbourg, Pascal Auclert, ce sont les quarts de finale.
Oui, et Strasbourg, ultra réaliste, est en train de créer la sensation en menant au score 2-1 face à l'Olympique Lyonnais. Les Alsaciens, archi-dominés, ont ouvert le score à la 26e minute sur un pénalty peu évident transformé par Ajorc. Avant le repos, les Lyonnais ont touché 2 fois du bois par Terrier, puis par Depailly. Ils ont aussi raté un pénalty par Fekir avant de voir finalement leurs efforts récompensés à la 49e minute par Traoré. Une égalisation de courte durée puisque à peine 2 minutes plus tard, eh bien, c'est Strasbourg qui reprenait l'avantage sur une tête de Koné et un corner. Voilà donc Strasbourg maintenant bien embarqué dans cette partie. Ils sont toujours dominés, mais ce sont eux qui sont devant score. 2-1 alors qu'il reste 20 grosses minutes à jouer.
Merci beaucoup Pascal Auclert en direct de Lyon et je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute d'Europe 1 en compagnie de Sophie Peters pour la Libre Antenne. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Isabelle.
Je vous souhaite une très belle émission Sophie.
Merci, on vous retrouve tout à l'heure.
À tout à l'heure.